Salut, bienvenue dans le premier épisode de Tennis Lounge, le podcast tennis qui s'intéresse à l'aspect mental du sport et à la gestion de carrière des joueurs de tennis. Je m'appelle Jennifer Migan, je suis une ancienne joueuse de tennis professionnelle et j'ai également eu la chance de travailler avec des jeunes joueurs en tant que coach. Et s'il y a bien une chose que j'ai remarqué au cours de toutes ces années, c'est que tous les joueurs se posent les mêmes questions. Comment gérer la pression? Comment être plus confiant sur le court? Comment gérer ma carrière? Comment me financer? Comment gérer ma relation avec mes parents, mes entraîneurs, etc., etc.? Quand arrêter ma carrière? Bref. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de ressources qui sont sur le net, qui nous permettent de nous améliorer tactiquement et physiquement. Mais quand il s'agit de préparation mentale, alors il y a plein de choses qui sont très bien, mais je trouve que l'information, elle est quand même assez clairsemée. Et avec ce podcast, j'ai vraiment envie d'essayer d'apporter à mon humble niveau de la valeur en posant vraiment les questions qui fâchent quand il s'agit de préparation mentale, de parler aux acteurs du sport, de vraiment vous aider, que vous soyez joueur ou bien entraîneur ou bien parent, à trouver des réponses à toutes ces questions. Pour ce premier épisode, J'ai envie de parler d'identité, j'ai envie de parler d'ADN. Alors en général, quand on parle d'identité et d'ADN d'un joueur ou d'une joueuse de tennis, on pense à est-ce que je suis un attaquant, est-ce que je suis un limeur du fond, est-ce que je fais service volé. Mais moi j'ai envie de parler d'ADN mental. J'ai envie vraiment de répondre à cette question, quelle est mon identité mentale en tant que joueur? Alors, pour répondre à cette question, j'ai identifié trois périodes dans la carrière d'un joueur ou d'une joueuse de tennis. Et au cours de ces trois périodes, je pense qu'il y a des questions à se poser qui vont nous aider à justement répondre à cette question. Quel est mon ADN mental en tant que joueur ou joueuse de tennis? Alors, commençons par la tranche d'âge 7-11-12 ans, et c'est ce que j'appelle la période apprentissage et plaisir du jeu. En général, alors, souvent on commence peut-être même un petit peu avant 7 ans, mais c'est dans cette période-là où on commence à faire des entraînements de manière un peu plus régulière et qu'on a accès à la compétition. Et je pense que quand on est entraîneur et que on a un joueur ou une joueuse qui montre un talent certain pour le sport, le but de l'entraîneur, c'est vraiment d'apprendre les bases, bien entendu, mais aussi de développer un véritable amour du jeu. Et pour cela, je pense qu'il y a des questions qui sont essentielles à poser. La première, quel est ton joueur ou ta joueuse de tennis préférée? Alors je sais, ça fait très bateau comme question et on peut se dire qu'il n'y a pas forcément un intérêt à poser ce genre de questions. Mais en fait, si. C'est pour moi une question qui est importante parce que ça nous permet de mieux connaître notre joueur ou notre joueuse, de créer un lien avec cette personne et surtout de savoir qui l'inspire, qui a déclenché peut-être même l'envie de jouer au tennis. Souvent, quand on entend les joueurs professionnels parler, on entend... Souvent, prenons l'exemple d'Amélie Mauresmo, par exemple, qui a dit « Moi, quand j'ai vu Yannick Noah gagner Roland-Garros en 83, j'avais 4 ans, j'ai eu envie de me lancer et de commencer à faire ce sport. » Après, il y a plein de jeunes joueurs qui expliquent comment ils ont été inspirés par Serena Williams ou bien Federer, qui était fou de Stefan Edberg, ou bien de Boris Becker, Pete Sampras, tous ces joueurs-là. Donc, savoir qui est le joueur ou la joueuse préférée, finalement, ça va permettre à l'entraîneur non seulement de créer un lien, mais surtout de pouvoir s'inspirer de ces joueurs-là dans sa méthode pédagogique. Donc l'idée, en fait, quand on est entraîneur et qu'on essaie d'établir une relation avec son joueur, c'est de ensuite étudier ce joueur ou cette joueuse préférée et de pouvoir donner des exemples s'inspirant de ce joueur ou de cette joueuse à son élève. Alors, il ne s'agit pas de, Pardon. Il ne s'agit pas de vouloir comparer, de dire, ah, t'as vu, Federer à cet âge-là, il est à tel niveau. Quand je dis s'en inspirer, c'est plutôt justement repérer les peut-être les lacunes que ce joueur qui aujourd'hui est au top niveau a pu rencontrer au tout début de son apprentissage, de manière à dire, bah, tu vois, même telle personne avait ce genre de problème à cet âge-là. Donc ça veut dire qu'il y a de l'espoir, ça veut dire que justement, avec du travail, on peut arriver à de très grands résultats. Il faut se servir de ça pour inspirer et pour inciter le joueur, le jeune joueur ou la jeune joueuse à travailler. La deuxième question, quel est ton coup préféré? Alors là, on est toujours dans une optique de créer une notion de plaisir et d'amour du jeu dans l'apprentissage. Parce que en fait, il faut savoir que quand on commence, souvent ce qui donne envie aux joueurs aux jeunes d'aller s'entraîner, c'est de se dire, ah ben, c'était sympa, c'était pas sympa. Et donc là, en fait, quand on demande le coup préféré du joueur ou de la joueuse, on va l'utiliser pour une chose bien précise. On va l'utiliser pour développer une force et pour aussi développer le goût du travail. Je m'explique. En fait, l'idée, ça va être après de dire à son joueur ou à sa joueuse, bah, tu vas travailler, on va travailler les coups classiques, et à la fin, on va prendre 10 à 15 minutes pour travailler ce coup que tu adores, on va finir avec ça. Donc ce que vous faites en fait, c'est que déjà vous apprenez à votre élève à être patient, à travailler, et à ensuite à s'amuser. Et souvent, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on va arriver à ces 10-15 minutes à la fin, bah, votre élève va avoir de l'énergie, l'envie de travailler ce coup, l'envie de bien faire. Donc finalement, on ne voit pas forcément le temps passer, donc on apprend à travailler un peu plus longtemps. Et ce qui se passe aussi, c'est que souvent, ce coup va devenir une force, un coup fort et un atout sur lequel cette joueuse ou ce joueur va pouvoir s'appuyer dans la suite de sa formation. Donc pour résumer cette première partie, lorsque vous avez un jeune joueur ou une jeune joueuse entre 7 et, allez, on va dire 11-12 ans, l'idée c'est vraiment de développer cet amour du jeu et d'utiliser donc les joueurs ou les joueuses qui ont pu les inspirer pour les inclure dans votre méthodologie et ensuite faire travailler un coup favori parce qu'en faisant ça, vous développez une force et vous allez commencer à voir un petit peu le caractère de votre joueur ou de votre joueuse. Ensuite vient la phase de ce que j'ai vraiment envie d'appeler la formation haut niveau. C'est la phase entre 12 et 16-17 ans qui est vraiment la période charnière. En général, de toute façon, à cet âge-là, il y a déjà une première, ce que j'ai envie de dire, une sélection naturelle, où on voit des joueurs qui avaient peut-être un talent en étant très jeunes et qui bah, perdent l'intérêt pour le sport, qui arrêtent. Ou bien, voilà, c'est là où on se rend compte que souvent, il y a une première décision. C'est à ce moment-là où les joueurs, même si 12 ans, ça peut paraître tôt, c'est à ce moment-là où vraiment commence à se dessiner le projet professionnel. En général, c'est à ce moment-là où on rentre dans les académies, dans les sports-études, qu'on est encadré par la fédération et qu'on a vraiment ce projet de devenir professionnel. Et c'est une période qui est extrêmement importante parce que c'est là où on va vraiment définir les bases du jeu. Les bases du jeu et c'est quand on regarde les joueurs de tennis qui ont réussi et qu'on retrouve des vidéos de quand ils avaient, je sais pas, entre 12 et 16 ans, souvent on voit que la technique est la même, que la démarche, la dégaine est vraiment similaire. Et c'est une partie où j'ai vraiment envie de mettre l'accent sur le fait qu'il faut faire preuve d'honnêteté. Et quand je parle d'honnêteté, c'est-à-dire en tant que joueur, Il faut être, faut prendre un petit peu ses responsabilités, se dire, ok, est-ce que vraiment c'est ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie d'être joueur de tennis professionnel? Est-ce que j'ai envie d'être joueur de tennis professionnel? Et pour l'entraîneur, c'est un moment où finalement, ce qui est important, c'est de créer une relation de confiance avec son joueur et surtout d'être à l'écoute. Je crois que c'est Patrick Mouratoglou qui disait que en fait, le rôle de l'entraîneur, c'est d'écouter ce que le joueur ne dit pas. Et je trouve que c'est vraiment bien pensé parce que souvent il y a des choses qu'on en tant que joueur qu'on n'ose pas forcément dire. Et c'est un petit peu à l'entraîneur de sentir ça et de créer un climat de confiance où le joueur va pouvoir être suffisamment confortable pour se confier et pour qu'on puisse justement tirer de cette relation le maximum du joueur. Donc voilà. En ce qui concerne les questions à poser à cette période-là, je pense que en tant qu'entraîneur ou même en tant que joueur, il faut aussi se poser cette question-là. Quel est l'objectif sur le long terme? Pourquoi? Et c'est bien de savoir la source de sa motivation. Et peu importe, finalement, il n'y a pas de mauvaise réponse. Savoir qui on est, savoir où on va, ça va vraiment nous aider. Et plus on va être honnête, et plus on va dire vraiment, voilà, c'est ce que j'ai envie de faire, j'ai envie d'être pro, ou peut-être que j'ai envie d'être, je sais pas, j'ai envie d'aller gagner un grand chelem chez les juniors, je ne me vois pas forcément aller au-delà, j'ai envie d'aller faire mes études aux États-Unis. Peu importe finalement le projet, je pense que plus on est honnête, et plus on va être en mesure d'atteindre son objectif. Et son potentiel maximum. Ensuite, la deuxième question à se poser, c'est quelles sont mes forces? Et là, je veux vraiment prendre le temps d'expliquer ce que je veux dire par ça. Être capable d'identifier ses forces et de savoir qui on est, c'est quelque chose vraiment d'essentiel. C'est essentiel parce que quand on va se retrouver dans une situation de stress, on va être amené juste, on va revenir à son état naturel. Et si on ne connaît pas ses forces, ben on devient vulnérable. Je prends un exemple tout simple. Si vous ne savez pas, en tant que joueur, quelles sont vos forces, posez-vous la question suivante. Vous êtes en finale de l'Orange Bowl ou des petits as pour les moins de 14 ans, bref, ou du championnat national, championnat de France. On est à 4 partout au troisième set, vous servez et vous devez sauver une balle de break. Qu'est-ce que vous faites? Quel schéma de jeu vous allez adopter? Ça y est, vous ressentez la pression, là, vous flippez? Parfait. Et si je pose cette question, c'est une question vraiment que j'aime poser aux jeunes joueurs. Et j'aime poser cette question-là parce que finalement, je suis sûre que vous avez pensé à un schéma de jeu. Et ce schéma de jeu, bah, c'est un petit peu votre état, c'est votre ADN. Et je pense qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de mauvaise réponse. Si on prend l'exemple de Federer, Nadal, Djokovic, on peut être d'accord sur le fait que tous les trois sont en mesure de jouer les points importants à la perfection. On a toujours l'impression d'ailleurs qu'à ce moment-là, ils arrivent à hausser leur niveau et à jouer le coup juste. Mais je pense qu'aucun des trois n'a les mêmes schémas. Mais là où ils se rejoignent, pardon, là où ils sont vraiment, ils ont la même façon d'aborder les choses, c'est qu'ils savent exactement qui ils sont. Ils vont pas chercher à aller faire quelque chose de différent. Ils vont pas aller chercher à faire un coup exceptionnel. Alors, ils vont le faire de temps en temps quand ils sont vraiment en confiance. Mais dans la plupart des cas, quand vous regardez les points importants de ces trois joueurs, c'est toujours les mêmes schémas. On n'est pas dans l'improvisation. C'est parce qu'ils savent, depuis qu'ils sont jeunes, exactement leur identité, leur ADN. Et mentalement, ils vont aller vers le schéma où ils se sentent le plus fort. Donc c'est pour ça que quand je dis que cette période elle est importante et que l'honnêteté est très importante, c'est parce que je pense que souvent ce qui se passe c'est qu'on a et d'être capable en tant que joueur de vraiment exprimer qui on est et d'essayer de le faire comprendre à ses entraîneurs. Parce que souvent ce qui se passe c'est que l'entraîneur se dit bon voilà, telle personne est comme ça, donc il ou elle doit jouer de cette manière. Et même si je comprends l'idée, ce dont je suis convaincue, c'est que quand on arrive au moment important, et l'ADN du joueur ou de la joueuse ressort. Ce qui est aussi intéressant, j'ai lu un bouquin récemment et qui s'appelle The New Toughness Training for Sports by James Ellwanger. Et ce qui est intéressant dans ce livre, en fait, c'est qu'il parle d'identité de joueur et d'identité personnelle. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on est dans cette période 12 à 16 ans, c'est une période qui est hyper importante. En fait, c'est l'adolescence. On change. On fait face à d'énormes transformations. Et donc, c'est aussi important d'être en mesure de développer son identité en tant que joueur, mais aussi son identité en tant que personne, d'avoir des fondations solides. Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre de ne pas exister uniquement en tant que joueur de tennis. Ça va nous permettre de savoir aussi qui on est en tant qu'être humain. Bien trop souvent, on voit des joueurs et des joueuses qui basent leur estime de soi en fonction de leurs résultats, ce qui est absolument désastreux. Et c'est pour ça que les entraîneurs doivent être vigilants à ce niveau-là. Après, la question c'est, est-ce que mon identité personnelle et mon identité de joueur doivent être identiques? C'est une question que je me suis beaucoup posée, moi, en étant joueuse. Et au final, je me rends compte que la réponse est non, pas forcément. Prenons l'exemple, par exemple, de Petra Kvitova, qui est une joueuse extrêmement agressive sur le court, qui met des mythes partout, et qui, au final, dans la vie de tous les jours, est quelqu'un de... qui, elle-même, elle se décrit comme quelqu'un d'assez introverti et assez calme. Un autre exemple que tout le monde connaît, Rafael Nadal. Très expressif sur le terrain, il a l'air extrêmement sûr de lui, d'ailleurs il l'est, mais qui est beaucoup plus introverti dans la vie de tous les jours. Une des choses aussi que je pense est importante de développer quand on est dans cette phase de 12 à 16-17 ans, c'est d'arriver à être capable de se détacher des résultats et de vraiment se focaliser sur le développement de son identité de jeu. De vraiment être détaché des résultats, même si c'est pas forcément facile parce que c'est un univers où tout le monde en fait se monte un peu le chou en se disant « Attends, t'as gagné tel tournoi, mais t'es monstrueux alors que t'as 12 ans » et bref, c'est pas très important. Et arriver à créer une bulle. L'exemple parfait, c'est Dominique Thiem. Dominique Thiem, il a été entraîné pendant plus de presque 15 ans, je crois, par Gunnar Bresnik. Et j'avais lu quelque part que quand il était petit, ils avaient ce projet à long terme d'arriver sur vraiment le circuit. Et donc, il frappait déjà très très fort. Il n'était pas très grand, mais il envoyait des cartouches un peu partout. Et je crois que c'est Bresnik qui racontait que beaucoup de parents de joueurs allaient voir les parents de Thiem en leur disant « Mais il fait n'importe quoi, mais qu'est-ce que vous faites avec cet entraîneur? Mais il faut changer, mais vous vous rendez pas compte, il y a tel tournoi, et blablabla, et blablabla. » Et j'ai vraiment envie de féliciter les parents de Dominique Thiem pour pas justement avoir cédé à cette pression et avoir fait confiance à l'entraîneur et avoir eu cette vision à long terme. C'est quelque chose qui est très très important. De se dire que cette formation, cette période-là, elle est vraiment faite pour fonder et pour mettre ses bases. Je suis sûre que si on demande à n'importe quel joueur qui a, je sais pas moi, elle est même 18 ans, de se rappeler du troisième match qu'il a fait dans la saison à 12 ou à 13 ans, mais personne ne s'en souvient. Donc arriver vraiment à se projeter, à savoir qui on veut être, quel type de joueur ou de joueuse on a envie de devenir, et d'aller à fond dans cette voie-là, et de vraiment se focaliser là-dessus. Quand on prend aussi l'exemple de Rafael Nadal, encore lui, je lisais il y a quelque temps que Tony Nadal disait que quand ils étaient justement, quand il était à quand il avait cet âge-là, quand Rafael Nadal avait cet âge-là, il était déjà hyper fort, il avait gagné les Pisas, tout le monde parlait de lui. Et ben eux, leur objectif, c'était pas de gagner Roland-Garros, mais qu'il avait trois objectifs. Un, frapper la balle plus fort. Deux, jouer où l'adversaire n'était pas. Et trois, essayer de le faire tomber sur le terrain. Et on se rend compte en fait que ce ne sont pas des objectifs de résultat, mais des objectifs de jeu. Et que quand on a des objectifs de jeu, et ben finalement, on peut les mesurer. C'est quelque chose qui est quantifiable. Quand on se base, et parce qu'il disait que vouloir avoir pour objectif de gagner Roland-Garros, ça ne dépendait pas uniquement d'eux. Et je trouve que c'est une excellente façon d'aborder les choses, de se dire, je vais me focaliser sur mon jeu, avoir des objectifs de jeu et non pas de résultats. Après, on peut prendre aussi l'exemple du père des sœurs Williams, qui lui a carrément décidé de les retirer du circuit pour qu'elles ne se focalisent uniquement que sur le développement de leur jeu. Et ça leur a plutôt bien réussi. Donc pour résumer cette période-là, je pense que ce qui est important, c'est d'être capable d'identifier ses forces, de savoir qu'est-ce qui va nous faire gagner et sur quel schéma de jeu on va s'orienter lorsque l'on est en situation de tension. Quel est notre projet? Où est-ce qu'on veut aller? Quel est notre objectif à long terme? Et enfin, d'avoir des objectifs de jeu et non pas de résultat. La phase 3, entre 16 et 21, 22 ans, alors là, c'est vraiment l'ascension vers le plus haut niveau. C'est là où on quitte les juniors, qu'on rentre dans ce que j'ai envie de gentiment appeler l'enfer des tournois ITF, et là, on se confronte à tout le monde. Les jeunes loups hyper ambitieux, les vieux de la vieille qui ont roulé leur bosse, qui ont été très forts au classement, qui sont en train un peu de redescendre, qui sont en fin de carrière, mais qui sont toujours là et que c'est bien de battre. C'est pas du tout évident, mais parce qu'on va jouer dans des endroits un petit peu glauques parfois, les conditions sont pas terribles et surtout on joue pour de l'argent. Donc il y a un enjeu qui n'est pas le même que quand on joue pour les tournois juniors où c'est beaucoup plus fun. Et voilà, là vraiment, on essaie de vivre, de gagner sa vie et d'atteindre le plus haut niveau. Dans cette période-là, je pense que déjà, il faut se reposer la question. À chaque grande phase de notre carrière, je pense que ce qui est essentiel, c'est de se demander. Est-ce que j'ai toujours envie de cette vie-là? Est-ce que je veux être joueur ou joueuse de tennis? Et encore une fois, il n'y a pas de mauvaise réponse. L'important, c'est d'être convaincu de ce qu'on a envie de faire et d'y aller. Et une autre chose, c'est de se dire que voilà, c'est une période où il faut essayer d'emmagasiner le maximum d'expérience et le plus vite possible, idéalement. Alors pour les joueurs qui se lancent à 16, 16, 17, 18 ans, effectivement, c'est jeune. Effectivement, on a le temps. Mais l'idéal, c'est d'être en mesure d'aller sur les tournois, de faire des matchs, d'avoir des objectifs de jeu, d'apprendre, de retirer le maximum de leçons, de vraiment développer cette mentalité de progrès et d'essayer de progresser sur chaque tournoi. Et on se rend compte que les joueurs qui arrivent sur le circuit très tôt, ils ont une capacité à emmagasiner rapidement l'expérience, mais aussi d'apprendre des erreurs des autres. Et un bon exemple que j'ai envie de citer, c'est Alexander Zverev. Alors Alexander Zverev, pour ceux qui savent, il a eu la chance d'avoir un grand frère, Micha Zverev, qui a fait le circuit, qui est, je ne sais pas combien d'années de différence ils ont, mais il est plus vieux que lui. Et finalement, bah lui, il a vécu un peu le circuit au travers du parcours de son frère. Ce qui fait qu'il a vu, il a vu ses erreurs, il a pu s'en inspirer. Et il a été, et vraiment, il s'en est bien inspiré. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont dit. Il a eu cette capacité à observer son frère Micha et à apprendre de ses erreurs pour être meilleur. Et d'ailleurs, il a maintenant dépassé. Et je pense que c'est peut-être le fait maintenant qu'il n'est plus ce modèle qui fait que bah, il a des résultats un peu plus en dents de scie. Mais ça reste quand même un très 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 bon joueur. Et au final, quand on a justement ces objectifs de progrès, logiquement, les résultats suivent et on peut après avoir des objectifs de classement et aller vraiment chercher bah, le top 100, le top 50, le top 20, le top 10, les grands chelems, etc., etc. Mais vraiment, le plus important dans cette phase, c'est d'essayer de progresser et d'emmagasiner un maximum d'expérience, d'avoir vraiment cette mentalité un petit peu de comme un chercheur qui essaie de toujours trouver un peu plus, d'aller un peu plus loin dans sa recherche pour avoir des résultats probants. Pour résumer cet épisode, je pense que pour définir son ADN mental, son identité mentale en tant que joueur de tennis, il y a trois phases qui sont importantes et dans ces trois phases, il y a des questions à se poser. Dans la phase entre 7 et 11-12 ans d'apprentissage, qui est pour moi, oui, donc l'apprentissage et l'amour du jeu, les entraîneurs doivent demander aux élèves quel est le joueur préféré, la joueuse préférée, de manière à pouvoir les inspirer. Ensuite, quel est ton coup préféré, de manière à pouvoir intégrer ce coup-là dans leur séance, développer finalement cette envie d'aller chercher bah, une force et de développer un atout. Ensuite, la période 12-16 ans, où là, c'est vraiment la formation du joueur, où on a défini que le projet va être professionnel et qu'on a envie vraiment de se lancer sur cette aventure qui est le sport de haut niveau et le tennis au plus haut niveau. Être capable d'identifier ses forces, vraiment savoir quelles sont ses forces et pouvoir développer ensuite son identité là-dessus. Apprendre à gérer la pression et surtout à développer aussi son identité de joueur, mais pour les entraîneurs, d'accompagner les joueurs pour qu'ils puissent aussi s'épanouir en tant que personne. Ne pas avoir des objectifs de résultats, mais des objectifs de jeu. Et de vraiment développer un jeu, une identité qui est propre à ce joueur ou à cette joueuse-là. Et ensuite, dans la phase entre 16 et 21, 22 ans, qui est vraiment l'ascension vers le haut niveau, on quitte les juniors. Et là, il s'agit de savoir déjà, est-ce que ce projet me convient toujours? Est-ce que j'ai toujours envie d'être joueur ou joueuse de tennis professionnel? Une fois qu'on est OK là-dessus. Ok, et maintenant il faut aller emmagasiner un maximum d'expérience, apprendre. Apprendre, répéter, repartir, et ainsi de suite. Et avoir toujours cette notion de progrès. Quels sont les progrès que je fais sur chaque tournoi et comment est-ce que je peux m'améliorer? Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao!